Bonjour, chers amis de Radio Grand Ciel. Nous nous retrouvons à nouveau, comme il y a 15 jours, avec Bruno Moisan, agrégé de l'université, docteur en musicologie. Comme vous allez constater tout de suite, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses, il va nous parler aujourd'hui de l'histoire de la polyphonie, la naissance de la polyphonie. Cher Bruno, je vous souhaite la bienvenue. Les Chartrains vous connaissent bien, parce que non seulement vous enseignez à Sciences Po, mais vous êtes aussi professeur au lycée Marceau, et vous assurez aussi des cours organisés par le Centre international de vitrail à Chartres. Donc les Chartrains ont la chance de vous écouter, mais je vous donne tout de suite le microphone pour que les auditeurs de Radio Grand Ciel vont apprendre et boire à votre source.
Merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer dans le temps et aussi quitter la musique monodique pour la musique polyphonique. Alors, on peut dire d'abord, pour commencer, que la musique polyphonique est d'abord un fait occidental dans la façon dont on conçoit la polyphonie. Mais il existe des polyphonies ailleurs, donc polyphonie, musique à plusieurs voix. Il existe des polyphonies ailleurs que dans le monde occidental. On connaît les polyphonies pygmées, par exemple. Il y a des chœurs qui chantent à plusieurs voix. On connaît aussi les polyphonies de gamelan balinais, par exemple, qui sont des musiques aussi qui superposent des lignes mélodiques, qui ne sont pas des monodies pures, au sens où on n'a qu'une seule voix qui chante. Ou alors, quand vous avez un chœur qui chante avec plusieurs personnes qui chantent ensemble, mais qui chantent la même chose, nous avons aussi affaire à une musique monodique. Si je chante « Viderunt omnes », c'est une musique monodique. On peut être 100 à le chanter, ça restera toujours une musique monodique. Mais à partir du moment où nous sommes deux et où nous chantons chacun une chose différente, nous avons à ce moment-là de la musique polyphonique. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le monde occidental, la polyphonie va évoluer d'une façon extrêmement particulière au point de donner toute la musique que nous connaissons, c'est-à-dire Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt, Chopin, les chansons de la Renaissance, du XVe siècle, de Jeanquin, etc., etc., ce qui est une spécificité occidentale, et il va falloir peut-être essayer un petit peu de percer le mystère. Alors, quelles sont les raisons qui ont fait que dans l'Empire romain, dans ce qui était l'Empire romain d'Occident, eh bien, la musique a quitté la logique issue du fond méditerranéen monodique et modal pour devenir la musique à plusieurs voix, puis instrumentale, telle que nous la connaissons dans notre culture. Alors, bon, c'est plus ou moins un mystère. On ne sait pas trop comment les choses se sont faites. Alors, je vous donne mon interprétation, qui est la mienne. Je pense qu'il y a plusieurs causes. La première cause est que, si on se fie par exemple à l'enregistrement que nous avons écouté la dernière fois du chant bénéventin par Marcel Pérez, on voit très très bien que la façon de chanter méditerranéenne est une façon chantée avec des ornementations qui sont en dessous du demi-ton, avec des intervalles extrêmement subtils. On voit difficilement comment on peut superposer des mélodies avec ce type de chant. En revanche, Marcel Pérez a fait exprès dans l'enregistrement que nous avons écouté la dernière fois, quand l'antienne et les paroles du psaume passent en latin, d'avoir des intervalles beaucoup plus, j'allais dire grossiers en fait, bruts de décoffrage, beaucoup plus nets. Et il est probable que ce soit peut-être cette façon de chanter, propre à l'Empire romain d'Occident, assez claire, assez nette, qui ait peut-être favorisé l'expansion de la polyphonie. Alors il peut y avoir aussi des causes harmoniques. Je me souviendrai toujours d'une expérience très amusante avec Patrick Delab, l'organiste de la cathédrale, que tous les Chartrains connaissent, bien entendu. Et il m'avait mis à un point très précis de la cathédrale, je ne me souviens plus exactement de l'endroit, mais il m'avait dit « chante une note ». Alors bon, je chante ma note, et non seulement j'ai entendu ma note, qui était en fait le son fondamental, mais j'ai entendu aussi la quinte, j'ai entendu la tierce, etc. J'ai entendu ce qu'on appellera plus tard, tout simplement, l'accord parfait. Alors, est-ce que les capacités résonantes des grandes cathédrales ont favorisé la prise de conscience de l'accord ? C'est possible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette véritable mutation esthétique est en même temps une mutation technique, parce qu'il a fallu construire à ce moment-là des trajets logiques qui sont ceux de la superposition des voix entre elles, eh bien, est issue d'une coalescence de facteurs qui, à mon avis, risque encore de beaucoup faire travailler les musicologues, les savants, la musicologie, les sociétés savantes, etc., etc. Alors, pour suivre un petit peu cette évolution, je vous propose de tout simplement de reprendre notre graduel, le Videruntumnes, qui va nous servir de fil conducteur, puisqu'il a été transformé en polyphonie au moins de nombreuses fois, et on en écoutera seulement deux transformations d'ailleurs, qu'on appelle des organums, et je vous propose de bien mémoriser d'abord, pour comprendre ce qui va se passer après, le début du Videruntumnes que je vais vous chanter. Videruunt omnes, et je vous rechante les trois premières notes. Videruunt, qui d'ailleurs fait un accord parfait. Hein. Et vous allez voir que mémorisez-les bien parce que la polyphonie va se construire à partir de ce chant grégorien sur lequel les chantres improviseront de la façon qu'on va étudier, j'allais dire, tout à l'heure. Donc écoutons ce graduel, au moins une partie déjà, par les moines de Solesmes comme la dernière fois. Et avant que nous l'écoutions, je voudrais aussi préciser une chose. On l'entend par les moines de Solesmes et c'est une interprétation 19e siècle. Hein, c'est par les moines de Solesmes, nous avons ce grégorien romantique qui s'est accompagné de la redécouverte du chant grégorien au 19e siècle. Et d'ailleurs, j'en profite pour soulever un petit problème musicologique quant à l'interprétation du chant grégorien. Avec les moines de Solesmes, nous avons des moines pour qui le chant du chant grégorien est une prière, s'insère dans la liturgie et, j'allais dire, est en symbiose avec leur spiritualité, leur vie de foi, leur relation à Dieu. En revanche, si on essaye de considérer que le chant grégorien doit être le plus possible être conforme à ce qui se faisait au 4e, 5e siècle, etc., on peut dire que là, nous en sommes relativement éloignés. C'est-à-dire, nous avons un chant grégorien qui est au chant grégorien du 5e, 6e, 10e siècle après Jésus-Christ, ce que le gothique troubadour du 19e siècle est à la cathédrale de Chartres. De même, en revanche, quand on écoute le chant grégorien reconstitué par les musicologues, nous avons évidemment une démarche qui essaye d'être le plus près possible de la lettre du chant grégorien, c'est-à-dire ce qu'il était au moment où il était chanté, mais avons-nous l'esprit, avons-nous la spiritualité, avons-nous cette cohérence absolue entre l'esthétique, la vie et la spiritualité? Je ne fais pas de procès d'intention, je me contente seulement de poser la question. Écoutons maintenant ce début du graduel Videruntumnes par les moines de l'abbaye de Saint-Pierre de Solesmes.
Chers amis de Radio Grand Ciel, Bruno Moisan nous parle de la naissance de la polyphonie.
Alors, cette polyphonie primitive, qui a été au départ improvisée, qui n'est pas apparue comme ça, il a fallu des années, des décennies pour que le mode de fonctionnement se stabilise, eh bien, on appelle ça des organums. Comment fonctionnent les organums? Alors, les organums fonctionnent finalement d'une manière assez simple. D'abord, la base de l'organum, c'est le chant grégorien, c'est le répertoire liturgique que tout le monde connaît, et évidemment notamment les chantres. Mais sur cette mélodie grégorienne de départ, eh bien les chantres vont improviser des voix secondaires qu'on appelle des voix organales. Le chant grégorien, qui sert de substrat à ces premières polyphonies, on l'appelle la vox principalis, et puis la voix improvisée, on l'appelle la vox organalis. Et ce qui va se passer, c'est que le chant grégorien, d'origine, va être considérablement étendu pendant qu'au-dessus, on improvise une voix secondaire. Ce que nous avons entendu il y a 5 minutes, « Viderunt ho 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 », le chantre ou le groupe de chantres à qui va être confié cette vox principalis va faire durer longtemps chaque note. C'est-à-dire au lieu d'avoir « Viderunt », nous allons avoir « Vi » puis « De » et au-dessus, vous allez avoir une improvisation. Alors, vous avez plusieurs types d'organum. Il y a quelquefois des organum où vous avez la vox principalis et reste relativement encore rapidement énoncée, avec au-dessus une sorte de décoration improvisée. Puis vous avez aussi d'autres organum, qui d'ailleurs ça deviendra plus ou moins le modèle, où vous avez au contraire, la vox principalis est considérablement étendue, et au-dessus, vous avez l'improvisation de la vox organalis. Alors l'organum va évoluer, c'est-à-dire qu'au départ d'improviser, évidemment, il va devenir fixé, il va devenir une composition, et puis bientôt, on va mettre un nom de compositeur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être ces productions anonymes pour la plus grande gloire de Dieu, qui est le propre quand même aussi du Moyen-Âge, eh bien nous allons avoir bientôt des auteurs vont signer leurs organum, comme le fameux Perrotin de l'école de Notre-Dame à cheval entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et puis l'organum va passer de 2 voix, vox principalis, vox organalis, à 3 voix, puis à 4 voix. Alors écoutons le graduel Viderunt omnes par l'ensemble Organum et Marcel Pérez à partir d'un manuscrit de Wolfenbüttel et que l'on trouve aussi à la Bibliothèque nationale de Paris. Voilà. C'était donc le graduel Viderunt omnes à partir du Viderunt omnes grégorien, ce graduel de la messe du jour de Noël par l'ensemble Organum et dirigé par Marcel Pérez. Alors, inutile de vous dire que on ne chante pas des organums tous les jours et qu'on ne chante pas des organums dans les messes basses. La plupart du temps, les organums sont en fait des productions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles que sont les grandes messes solennelles, notamment des grandes fêtes. Ça n'est pas un mystère si ce que nous écoutons, ce que nous venons d'écouter, est un graduel de la messe de Noël. Ça n'est pas un dimanche ordinaire. Alors, on a ici une production extraordinaire qui mêle à la fois ce que l'on connaît et l'improvisation. Et nous sommes aussi au cœur ici d'un processus d'invention typique du Moyen-Âge, qui est qu'il n'y a pas au Moyen-Âge de création ex nihilo. La création se fonde sur la notion d'auctoritas, qui sert de... où le connu sert de garant, de fondement à l'invention, j'allais dire, de la subjectivité. Nous n'avons pas au Moyen-Âge l'idolâtrie du sujet libre, libre de tout, libre de toute attache, qui puise dans sa propre subjectivité le contenu de sa propre création. Ici, nous sommes dans une création qui s'ancre d'une part dans une tradition, qui s'ancre d'autre part dans une institution qui fait autorité. C'est ce que disait le grand musicologue Jacques Chaillet, l'homme du Moyen-Âge crée toujours à partir du connu, suivant le principe de la greffe, suivant le principe de ce qu'on appelle aussi parfois la glose. Nous avons ici, en fait, affaire à une glose musicale d'un répertoire qui fait autorité, qui est la monodie grégorienne que tout le monde connaît et qui est authentifiée par l'institution comme répertoire de la liturgie. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que l'organum va considérablement augmenter la dimension des formes musicales. Le graduel grégorien Viderunt omnes, tel que nous l'avons écouté tout à l'heure par les moines de Solesmes, c'est 3 minutes 40. Ça n'est pas très court, mais ça n'est pas non plus très long. Le graduel que nous venons d'écouter il y a 5 minutes dure déjà 7 minutes 43. C'est-à-dire qu'en fait, la musique non seulement ne rétrécit pas au lavage, mais elle augmente au contraire dans ses proportions jusqu'à atteindre la proportion du double. Je suppose que les messes solennelles devaient être particulièrement longues dans certaines grandes cathédrales au XIIe, XIIIe siècle. Alors, ici nous venons d'entendre un organum à deux voix où la vox principalis reste encore relativement perceptible parce qu'elle n'est pas énoncée sous la forme de valeurs rythmiques trop longues, et où la vox organalis plutôt reste encore relativement mélismatique, c'est-à-dire relativement ornementée. Et nous allons écouter maintenant un autre organum qui va passer du chant à deux voix vers un chant à quatre voix, un organum dont on connaît l'auteur, qui est donc de Perrotin, né à peu près, on pense, en 1160, mort en 1240. Alors, qu'est-ce qui va caractériser cet organum par rapport à celui que nous venons d'écouter? Bien d'abord, il est évidemment déjà extrêmement structuré, il est extrêmement rigoureux, et puis surtout, il juxtapose deux choses. Il juxtapose d'abord une vox principalis considérablement étendue. Je crois que la première syllabe doit durer quelque chose comme 5 minutes pour un organum qui va en durer 15. On n'écoutera pas évidemment les 15 minutes, mais ce qui, dans le chant grégorien chanté par les moines de Solesmes, durait 3 minutes 40, maintenant va en durer plus de 15. Et au-dessus, les trois voix organales vont être parfaitement structurées sous la forme d'un discours homophonique. Et puis surtout, nous allons voir arriver une rythmique mesurée, fondée sur le ternaire, où chaque voix est parfaitement contrôlée dans sa trajectoire, l'une par rapport à l'autre. Alors le système de composition à ce moment-là va être celui qui sera celui des grands polyphonistes après, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une musique qui n'est absolument pas verticale, c'est une musique qui n'est absolument pas harmonique. Le compositeur contrôle les relations des voix deux par deux. Donc ça veut dire qu'il contrôle la première et la deuxième, la première avec la troisième, la première avec la quatrième, la deuxième avec la troisième, etc., etc. Et il contrôle les dissonances, c'est-à-dire donc ce qu'on pourrait appeler les notes fausses, en faisant en sorte que les dissonances puissent se résoudre sur ce qu'on appelle des consonances qui servent de point d'appui régulier au contrôle de l'évolution des voix. Et évidemment, s'instaure aussi, déjà on l'avait dans l'organum précédent, la relation entre la dissonance et la consonance. Qu'est-ce que c'est qu'une consonance? Eh bien, c'est quand ça, pour parler pédagogiquement, sonne juste. Au Moyen-Âge, il y a deux consonances, l'octave et la quinte. Les autres intervalles sont des dissonances. Donc il est obligatoire que tout intervalle qui fait dissonance puisse se résoudre sur une consonance. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Donc écoutons le début de ce Viderunt omnes sur le même chant grégorien que tout à l'heure, par le Hilliard ensemble de mémoire.
Thank you.
nous sommes déjà dans une musique que l'on pourrait appeler moderne, c'est-à-dire que tout ce qui va constituer l'essence même de la musique occidentale est ici déjà parfaitement formalisé. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas après des évolutions, il y en aura, mais nous avons ici véritablement tout ce qui constitue l'essence même de la musique polyphonique, c'est-à-dire le fait de superposer les voix, le principe de l'homophonie, le principe de la résolution de la dissonance sur la consonance, le fait que la musique devient à ce moment-là un trajet logique, ce qui est contrôlé par l'oreille du compositeur, et puis un certain nombre de règles d'écriture qui durera, j'allais dire, jusqu'au 19e et même au 20e siècle, dans la fugue, dans le contrepoint, etc., etc. La pratique utilisée ici, c'est celle de ce qu'on appellera bientôt le cantus firmus. Qu'est-ce que c'est que le cantus firmus? C'est ce qu'on appelait, il y a 5 minutes, la vox principalis, c'est le chant grégorien. Alors, quelle va être l'évolution de la polyphonie? Bien, la polyphonie sur cantus firmus va fonctionner au 13e, au 14e, même au 15e siècle. C'est-à-dire que la plupart du temps, le chant grégorien sera emprunté, donc sera au ténor, d'où le terme de teneur et le terme de ténor, et le compositeur inventera des voix accompagnantes, mais qui ne sont pas un véritable accompagnement, qui font corps simplement avec la voix principale aux autres voix, à la basse, et puis ensuite à l'altus et à ce qu'on appellera plus tard le soprano dans une polyphonie à 4 voix. Et il faudra attendre Josquin des Prés pour voir arriver une extraordinaire invention, qu'est l'invention de l'imitation. Alors, l'imitation existe déjà à l'intérieur de l'écriture polyphonique. Qu'est-ce que c'est que l'imitation? C'est la première voix, la deuxième voix reprend un intervalle, un motif, un trajet mélodique que la première voix a fait juste avant. Exemple, vous avez pam, 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 et puis vous avez une autre voix qui va faire pam, 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 pendant que l'autre voix continue. Comme je suis tout seul, je ne peux pas chanter les deux voix en même temps, mais je pense qu'on peut comprendre. Mais ce qui va se passer, c'est que Josquin des Prés, puisque c'est à lui qu'on attribue cette invention, va s'amuser à faire de véritables entrées en imitation. C'est-à-dire, au lieu de faire commencer tout le monde en même temps, la première voix va donner le modèle et les autres voix reprendront. Et je vous propose d'écouter le début de la messe Pange Lingua de Josquin des Prés durant le peu de temps qui nous reste. Eh bien, d'abord, donc c'est une messe sur un cantus firmus, donc qui est une pièce grégorienne, qui est l'hymne Pange Lingua, dont je vous chante le début. Pange Lingua gloriosi corporis mysterium. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que le grégorien soit au ténor et le reste en valeur plus ou moins longue, on aurait pan, puis qu'il se passe des choses au-dessus de G, puis ensuite Li, etc. Josquin des Prés va paraphraser ce Pange Lingua sous la forme du Kyrie, il va s'en servir comme véritable matériau de sa composition, et surtout il va le diffuser à toutes les voix, au lieu de le laisser à la voix du ténor. Voilà, eh bien je vous propose de terminer là-dessus, donc sur ce Kyrie de la messe Pange Lingua de Josquin des Prés, Josquin 1440-1520, nous sommes à la charnière du 15e et du 16e siècle.
après cette pièce de Josquin des Prés, il ne me reste plus qu'à remercier Bruno Moisan, agrégé de musique, docteur en musicologie, qui enseigne à Chartres, à Sciences Po, de le remercier pour nous avoir fait découvrir la naissance de la polyphonie. Cher Bruno Moisan, je crois que vous voulez nous faire découvrir encore une pièce pour terminer cette très belle émission pour laquelle je vous remercie du fond du cœur. Chers amis de Radio Grand Ciel, à dans 15 jours, merci beaucoup pour votre attention. Nous terminons avec quelle pièce, cher Bruno ?
Eh bien, un Deo Gratias de Josquin des Prés qui est à 36 voix et dont on écoutera peut-être juste la fin au moment où les 36 voix sont toutes ensemble.